Bonjour, bienvenue dans ce numéro de Fréquence Diagonale. Alors, sur cet épisode, on reçoit Jérôme Moufra. Salut Jérôme.
Salut Stéphane.
Alors, on te reçoit dans cet épisode de Fréquence Diagonale, c'est pour parler du jeu d'échecs et de l'éducation. Et alors, particulièrement d'ailleurs de l'éducation nationale, hein, pas seulement de l'éducation au sens large aussi, bien sûr. Parce que tu es un acteur, tu fais partie t'es un des monsieur échecs, monsieur jeu d'échecs de l'éducation nationale, puisque tu vas nous le raconter. Tu es professeur déjà à la base et bien sûr joueur d'échecs, et ça on en parlera plus dans la deuxième partie. Mais alors déjà, comment s'est fait la découverte un peu du jeu d'échecs dans l'éducation nationale? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'historique de ça?
Bah, c'est une longue histoire et je vais essayer de la résumer. C'est une découverte qui n'est pas récente en soi, hein, puisque dès les années 20, on perçoit, et même avant, l'idée que le jeu d'échecs pourrait avoir un impact sur la société et bah, qui plus est sur les jeunes gens. Donc on se dit finalement que la pratique du jeu d'échecs a peut-être des vertus, ce qui est quand même assez spécial puisque tu n'as pas spécialement d'autres jeux dont on pense qu'il a des vertus. En tout cas, il y a peu de jeux qui ont réussi à communiquer sur ce sujet autant que le jeu d'échecs et qui ont essayé d'étayer, puisque ça fait 70 ans, 80 ans qu'on essaye d'étayer cette idée que le jeu d'échecs, eh bien, améliorerait les performances, permettrait de plus réfléchir, de mieux réfléchir, de se concentrer, etc., etc. Donc la première étude, elle date des années 20 et elle est russe. Tu sais, c'est l'étude de Rudnick et deux autres chercheurs qui disent que les échecs permettent de se concentrer mieux, etc. Okay. Et puis il faut attendre vraiment les années 60-70 pour que les premières expérimentations fassent état d'une amélioration des résultats des élèves qui pratiquent le jeu d'échecs. Mais ce sont à chaque fois des études qui sont très empiriques et puis qui sont faites par des joueurs d'échecs, ce qui constitue quand même un petit peu leur point faible, parce qu'il y a un manque d'objectivité, même, je dirais, fortuit de la part de gens qui mènent une étude alors qu'ils sont eux-mêmes convaincus du résultat.
Oui, bien sûr, tout à fait. Ça, c'est le problème du biais scientifique concernant toute étude. Il faut faire attention, bien sûr, à ne pas avoir un conflit d'intérêt aussi, bien sûr, voilà, parce qu'on peut te suspecter d'avoir trafiqué les résultats. Ouais.
Bien sûr, c'est même, et sans aller jusque-là, je pense que la bienveillance d'un enseignant vis-à-vis de sa propre activité le pousse à trouver des résultats ou à dire que l'élève s'est amélioré. Et puis, finalement, ce qu'on dit aussi beaucoup de scientifiques, parmi les plus reconnus en neurosciences, ils disent, en définitive, oui, les échecs, les enfants qui pratiquent les échecs, ils sont meilleurs en classe parce qu'ils sont plus impliqués. Mais s'ils avaient fait du macramé ou s'ils avaient fait de la musique, ça aurait été la même chose, puisqu'ils auraient été plus impliqués et donc plus intéressés par ce qui se passait en classe, etc., etc. Donc, en fait, toute activité serait propre à développer la concentration, à développer des compétences spécifiques. Mais comme disent certains joueurs d'échecs aussi à raison, si les échecs ne sont pas plus mauvais que la musique, bah pourquoi pas les échecs à l'école, justement.
Oui, bien sûr. Oui. Mais il y a aussi je crois que depuis, il y a eu aussi des études scientifiques plus contrôlées, plus objectives, avec des doctorats à la clé, qui ont semblé aussi aller dans le sens d'une mesure de développement de capacités spécifiques que tu disais. Alors il y a la concentration, mais aussi la résolution de problèmes et la capacité d'analyse, quoi.
Bien sûr, je pense que tu fais allusion à l'étude de Michel Noir, qui est bien connue. Je ferai remarquer par parenthèse que Michel Noir est un très bon joueur d'échecs, donc je pense qu'il avait aussi un a priori.
Oui, mais il est
sur le jeu d'échecs. On peut pas faire l'économie de cette analyse. Moi-même, qui suis un joueur d'échecs, quand je parle du jeu d'échecs à l'école, je suis pas complètement objectif. Donc son étude, il l'a faite sérieusement, hein. C'est quand même une thèse de doctorat qu'il a présentée.
Voilà, c'est ça.
Il met en regard deux groupes, un groupe de joueurs et un groupe de non-joueurs, et on constate que le groupe des joueurs, eh bien, a des résultats supérieurs, notamment en termes de résolution de problèmes, comme tu l'as souligné. Ce qui n'est pas complètement étonnant. Le jeu d'échecs est un jeu de résolution de problèmes, c'est un jeu où on formule des hypothèses, où on vient les infirmer ou les confirmer par les résultats pratiques de l'expérience. Donc en définitive, ça nous semble, nous, évident, ça semble peu évident peut-être au grand public, mais en tout cas, il est vrai que le jeu d'échecs fait réfléchir, ça c'est évident, et qui fait se poser des questions sur des problèmes concrets qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément l'équivalent en classe. Donc c'est en ça que c'est un outil intéressant. Mais ça pose, et là, jusque-là, l'histoire du jeu d'échecs à l'école, elle s'orientait autour de savoir si, bon, bah, ces analyses, ces études étaient justes ou pas. Maintenant, la question est plus ou moins tranchée. Tous les acteurs de l'éducation nationale, au plus haut niveau, considèrent que le jeu d'échecs ne peut avoir que des aspects positifs, que des impacts positifs sur les élèves.
D'accord. Alors, à noter quand même que cette thèse de Michel Noir, comme tu disais, c'est une thèse. Donc, en fait, il n'était pas seul à la valider, puisqu'il a un directeur de thèse. C'est le principe des thèses. On la fait jamais tout seul. On est encadré justement par des scientifiques qui ont plus d'expérience et qui sont déjà eux-mêmes, d'ailleurs, docteurs. Hein, c'est ça le principe. Donc il y a une objectivité plus grande, même s'il était joueur d'échecs, bon, ça lui permettait de mieux connaître le sujet, bien sûr, mais il pouvait pas, dans une thèse, on peut pas écrire ce qu'on veut, je veux dire, on est sous l'emprise à la fois d'un directeur et puis d'un jury. Il y a un jury de thèse aussi derrière, hein, donc voilà, tout ça c'est fait que c'est pas une étude qui s'est faite en l'air. Alors, c'est quoi la date de cette étude? C'est quoi la date, puisqu'on parle d'historique?
La date de cette étude, c'était dans les années 90, là, la date m'échappe un peu, mais c'était dans les années 90, c'est assez récent, en tout cas.
D'accord. Et donc, alors... Et quand c'est que l'éducation, alors, commence à, disons, reconnaître ça officiellement, en fait
En France, en tout cas, l'histoire, encore une fois, n'est pas récente, puisque dès la fin des années 60 et début des années 70, à l'est de la France, à Strasbourg, pour citer la ville en tant que telle, eh bien, tu as des recteurs, le recteur de l'Académie de Strasbourg en 78, qui soutient explicitement l'utilisation du jeu d'échecs pour la pédagogie, hein, sur le plan de formation. Il incite même à des formations d'enseignants au jeu d'échecs, aussi bien dans l'enseignement primaire que secondaire. Donc bien sûr, hein, le Strasbourg est proche de l'Allemagne, et il y a une culture du jeu en Allemagne qui est pas la même qu'en France, mais c'est à noter, je dirais qu'un des points de départ du jeu d'échecs à l'école en France, c'est l'Alsace.
D'accord. Et donc ensuite, alors
Ensuite, à partir dans les années 80, il y a eu le développement de beaucoup d'activités périscolaires, et beaucoup d'activités périscolaires ont été des ateliers de jeux d'échecs, notamment dans les ateliers bleus à Paris. Il y a eu une véritable explosion dans les années 80-90 de ces ateliers périscolaires pour les élèves.
D'accord. Et alors après, on arrive aux années 2000. Alors, d'abord en 99, c'est pas l'éducation, mais ou en 2000 même, c'est la reconnaissance du jeu d'échecs comme sport par le ministère des Sports.
Oui.
Alors ça, c'est important aussi, parce que ça va aussi lui demander de donner une dimension supplémentaire. Alors ça, c'est sous la présidence de Jean-Claude Loubatière, très grand président de fédération, puisqu'il a été président de 89, je crois, 1989 jusqu'à plus soif. je crois qu'il est décédé alors qu'il était président encore. Hein,
oui, oui.
Jean-Claude. Donc Jean-Claude Batière, très grand président de la fédération jusqu'à 2004. Voilà, j'ai les dates sous les yeux. Et il a fait reconnaître, c'est un de ses grands apports, il n'a pas fait que ça, il a fait énormément de choses, hein, puisqu'il a structuré les clubs en France. Il a fait énormément de choses. Et donc en 2000, il est reconnu comme sport. Et après, donc, qu'est-ce qui se passe après dans les années 2000, quoi?
Première conséquence, c'est si les échecs sont un sport, on peut considérer qu'ils devraient être enseignés au même titre que le football, le handball ou le tennis ou le rugby. C'est un axe de développement qui pouvait être suivi par la fédération, puisque au titre du sport, il n'y avait pas de raison qu'on ne l'enseigne pas, comme la natation par exemple. Bon, évidemment, les mentalités sont longues à faire évoluer. Tu sais que les échecs sont un sport, mais un sport un peu particulier, puisque c'est un sport qu'on appellera un sport de l'esprit. Donc à ce titre, c'est quelque chose de peu évident, et je peux te dire qu'à l'interne, dans l'éducation nationale, il sera difficile de convaincre les enseignants de sport que le jeu d'échecs est un sport en tant que tel. C'est un chemin de croix, c'est un long chemin pour une fédération qui voudrait se faire reconnaître en tant que tel, y compris au ministère des Sports, où dans une tradition malthusienne bien française, il y a un gâteau, chaque sport s'est réparti une part du gâteau, il y a un nouveau sport qui arrive, ce sont les échecs, on n'a pas envie de lui donner une petite part du gâteau. Donc derrière, il y a des financements, il y a du lobbying, et c'est une grande partie du travail fédéral que d'essayer justement de rentrer par là où les portes sont ouvertes.
D'accord, oui, donc ça c'est un aspect...
Le statut de sport nécessite et appelle une exigence encore plus grande, hein, justement. C'est parce qu'à partir du moment où tu vas vers l'éducation nationale, où les échecs vont vers l'éducation nationale, ils doivent aussi se conformer à ce qu'attend l'éducation nationale. On est J'y reviendrai quand on parlera de fédération, mais c'est un partenariat complètement asymétrique avec une fédération qui représente 60 000 personnes, bon an, mal an, et un ministère qui représente 15 millions d'élèves et à peu près 30 millions de parents.
Oui.
Donc c'est complètement, complètement asymétrique. Il y a un des deux qui est un peu plus puissant que l'autre, évidemment, et c'est ce qui représente une des difficultés aussi de ce type de partenariat. Le vrai tournant dans les années 2000, à partir du moment où Jean-Claude Moin a été élu président de la Fédération française des échecs en 2005,
ouais,
c'est de véritablement commencer ce travail de lobbying politique, puisque ça passe à 95% par de la politique, hein. C'est de commencer ce travail de lobbying, notamment via Jean-Michel Blanquer, qui était recteur de Guyane à la fin des années 90 et qui avait développé les échecs là-bas, et avec son aide, de réussir à signer cette fameuse convention en 2007, dont Jean-Michel Blanquer est le grand artisan, et qu'il a fait signer, qu'il a présenté à son ministre, Monsieur de Robien, et ce qui a permis à la Fédération française des échecs là de passer dans une autre dimension, puisque avec cette convention, le jeu d'échecs est reconnu, il n'y a plus de discussion sur sa reconnaissance.
D'accord. Et alors ça, alors on va revenir un peu sur ce point-là avant d'aller maintenant sur l'après 2007. Avant d'arriver là, tu fais partie toi en 2005 de l'équipe de Jean-Claude Moin.
Oui, bien sûr.
Donc sur ce travail qui a essayé de passer après le ministère des Sports vers le ministère de l'Éducation pour faire avancer le sujet du jeu d'échecs comme outil éducatif, comme support éducatif, comme tremplin éducatif aussi, mm-hmm, j'ai envie de dire, levier aussi, j'aime bien le terme de levier, moi. Mais toi, tu joues un rôle aussi dans cette démarche.
Oui, puisque j'étais dans l'équipe de Jean-Claude Moin. Bon, j'étais pas élu au comité directeur à ce moment-là, puisque j'étais placé assez loin sur la liste, mais je suivais ça d'assez près. À partir de 2006, Jean-Claude m'a demandé de m'occuper d'un projet qu'il avait en lien avec BNP Paribas qui s'appelait Tous aux échecs, qui consistait à développer les échecs à l'école dans des banlieues difficiles. On était juste après les émeutes à Clichy en 2005, les émeutes de banlieue, et il y avait la volonté aussi de la part de BNP Paribas d'apporter une bouffée d'air dans ces zones défavorisées. Donc j'ai été à la tête de deux projets, l'un à Sarcelles, l'autre à Clichy-sous-Bois, dans des endroits assez difficiles, où il s'agissait de développer le jeu d'échecs à l'école, ce qu'on a fait d'ailleurs. Et il se trouve qu'entre-temps, Jean-Michel Blanquer avait été nommé recteur de l'Académie de Créteil, et qu'il a eu l'occasion de rendre visite à un de ses ateliers d'échecs à Clichy-sous-Bois, puisqu'il était recteur de l'Académie de Créteil, et Clichy fait partie de l'Académie de Créteil. Donc il a, lui-même qui était déjà un fervent partisan du jeu d'échecs à l'école, a vu une application pratique à travers ces ateliers qu'on avait développés, et ça l'a sûrement pas influencé, mais ça n'a pu jouer que positivement sur ce qu'il a pu faire lui-même après pour le jeu d'échecs à l'école.
D'accord, et c'est là que c'est là aussi que finalement tu t'es aussi sans doute fortement rapproché de lui et que tu as que tu es entré dans une dimension un peu plus un peu plus ministérielle, je veux dire.
Dans le sens où justement les bonnes relations, et encore une fois tout est question de bonnes relations entre une fédération et un ministère pour que les choses avancent. Les bonnes relations de Jean-Claude Moin avec Jean-Michel Blanquer, qui avait déjà beaucoup œuvré, comme je te l'ai dit, pour la convention, et qui était recteur de l'Académie de Créteil, dans une académie qui est difficile et où il est important d'avoir des projets un peu motivants pour les élèves, bien Jean-Claude Moin a proposé que je sois détaché dans l'Académie de Créteil, puisqu'une mission Jeu de l'Esprit avait été créée par Jean-Michel Blanquer dès son entrée en poste en 2007, et au bout d'un an, bon, ils se sont aperçus qu'ils avaient déjà fait des choses, mais qu'ils avaient besoin aussi de quelqu'un qui connaisse un petit peu le jeu d'échecs, et si possible qu'il soit enseignant pour être à la croisée des chemins entre les deux mondes. Et donc Jean-Claude Moin a proposé mon nom pour que je sois détaché à plein temps sur cette mission, ce que Jean-Michel Blanquer a fait, et ce qui m'a donné bien sûr beaucoup de possibilités à l'intérieur de l'Académie de Créteil pour développer des projets un petit peu innovants, et puis qui m'a laissé aussi la possibilité de faire bénéficier la FFE de cette expérience.
D'accord. Alors maintenant, on rentre dans la période 2007-2014, donc la période récente, hein, on est vraiment en plein dedans, c'est tout récent. L'éducation nationale reconnaît officiellement le jeu d'échecs comme activité, je dirais, scolaire ou périscolaire, disons, standard, quoi, comme les autres sports, mais aussi comme d'autres activités d'éveil ou de soutien scolaire. Et là, il y a des actions qui sont mises en œuvre. Hein. Je crois qu'alors, il y a eu beaucoup de. Moi, j'ai vu. Alors, je vais dire ce que j'ai vu de loin. Moi, je ne connais pas le détail de toutes les opérations, mais bon, on a vu quand même plusieurs colloques organisés, des réunions qui faisaient rencontrer le monde de l'éducation, des professeurs, des responsables, etc., avec des acteurs du monde des échecs. Je crois même que Kasparov lui-même est intervenu. Donc, voilà. Donc, il y a eu des actions qui. C'est pas rien, parce que faire bouger, moi, je le sais, faire bouger un Kasparov, ça se fait pas comme ça. Je veux dire, bon, voilà. Donc, c'est des vraies actions, des grosses actions qui ont été engagées, qui ont été menées, avec de beaux événements de promotion et de communication et d'information. Voilà, alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Toi, tu as vécu ça, je veux dire, au premier chef, hein, tu étais, on peut dire, l'acteur éducation. Alors, tu avais en plus une double casquette, on en parlera dans la deuxième partie pour parler du côté fédéral proprement dit. On reste du côté ministère ici, ministériel, éducation. Voilà, quelles sont ces actions qui ont été menées, à la fois en termes de et puis les grands événements auxquels tu as participé. J'ai cité Kasparov, tu peux peut-être nous en dire plus là-dessus.
Bien sûr. Quand j'y repense, parce que tout ça est passé très très vite en définitive, mais quand j'y repense, je m'aperçois que c'était une période qui était très très dense de ce point de vue, et je vais essayer de remettre les choses dans l'ordre. Déjà, il faut quand même savoir que le jeu d'échecs à l'école, c'est pas un sujet que en France, c'est aussi un sujet qui est porteur à l'international. Un des événements auxquels j'ai eu la chance de participer, c'était le colloque de Turin en 2008 sur le jeu d'échecs à l'école, et qui était un des premiers colloques internationaux, je pense, sur le sujet, et qui avait mis en évidence l'idée que les fédérations aussi avaient besoin de ce jeu d'échecs à l'école pour aller vers le grand public. Hein. Tu sais que c'est un des axes de développement fort pour beaucoup de fédérations, pour la fédération française aussi, puisque quand Jean-Claude a été réélu en 2009, il avait fait des échecs à l'école la priorité de la fédération. Ouais. Donc c'était clair de ce point de vue. En tout cas, dans l'intention. Dans l'intention, ensuite, qu'est-ce qui restait à organiser? Il y avait plusieurs choses à faire. Il fallait renouveler la convention, bien sûr, parce qu'une convention ne s'use que si on s'en sert pas et ne peut disparaître si on la renouvelle pas, hein, si on fait pas le travail de lobbying et de proposition aussi pour la renouveler et l'approfondir. Donc j'y ai beaucoup travaillé avec Gérard Weiss, qui est un très fort joueur et un ami, et qui est un enseignant, lui, du primaire depuis 30 ans, donc qui connaît tout ça par cœur. Il a commencé à enseigner les échecs à l'école en 78, je crois, alors. Donc, tu vois, il connaît bien le sujet. Et il s'est rapproché de moi, lui, pour qu'on travaille ensemble sur ces sujets. Donc, on a travaillé au renouvellement de la convention de 2007. On l'a fait renouveler en 2011-2012. Elle a été intégrée au plan science du ministre Luc Châtel à l'époque. Et le jeu d'échecs était reconnu à ce moment-là comme outil pédagogique au service du raisonnement logique, hein, au service de la démarche scientifique. C'était un outil comme des ateliers scientifiques, en quelque sorte. Hein. Donc c'était l'axe qui avait été privilégié. Entre-temps aussi, il y avait d'autres événements qui témoignaient de l'actualité, de la pertinence du sujet. C'était la création de la Fondation L'Échiquier de la Réussite par Jacques Schramm, qui est un fort joueur lui aussi, et qui est un chef d'entreprise du 15e arrondissement, qui a fondé cette fondation qui s'appelle L'Échiquier de la Réussite, dont le but est de financer des projets de développement du jeu d'échecs en milieu scolaire. Donc on avait la possibilité d'avoir aussi des partenariats. Il a acheté beaucoup, beaucoup de jeux dont il a fait le don par lot de 10 à des écoles dans toute la France. Et j'ai eu la chance, justement, de siéger aussi au comité qui se chargeait d'arbitrer les dossiers, de travailler pour cette fondation. Donc j'étais à la croisée entre la fédération, l'éducation nationale et cette fondation, ce qui était important d'avoir plusieurs partenaires qui puissent participer, notamment en termes de financement. Bien sûr, j'ai continué les actions dans l'Académie de Créteil, beaucoup de formations, j'ai dû former plus de 1000 enseignants, certains avec succès, d'autres avec beaucoup moins de succès, il faut être honnête, on peut pas toucher beaucoup de monde et que tout le monde soit absolument convaincu, mais ça faisait partie aussi d'un travail de conviction de long terme, et là on en a encore 300 ou 400 qui tous les ans font des tournois dans leurs écoles, continuent à pratiquer les échecs en classe, donc c'est quelque chose qui fait tache d'huile et qui sera, à mon avis, assez durable. On a organisé aussi dans l'Académie de Créteil la première session de baccalauréat avec une épreuve optionnelle de sport. jeux d'échecs qui s'adressaient au public handicapé. Ça a été aussi là un succès puisque c'était pas évident de faire reconnaître ça, y compris par l'inspection de sport qui accepte que le jeu d'échecs soit un sport jusqu'à un certain point. De là en faire une épreuve de baccalauréat, c'était quand même pas évident.
Oui, c'est un cap supplémentaire.
On y est parvenu et c'était quand même une assez grande victoire.
Ouais, d'accord.
Voilà. Il a fallu être subtil. Ouais. Mais c'est pas moi qui me suis chargé de ces aspects très politiques, c'est mon supérieur hiérarchique, Monsieur Le Pivert, qui a été qui a finement mené ce dossier-là, mais en tout cas, cette épreuve existe dans l'Académie de Créteil et elle est ouverte à tous les candidats porteurs de handicap. Donc c'est aussi ça montre aussi la vertu, on va dire, allez, c'est le mot à la mode, la vertu inclusive du jeu d'échecs. On peut faire participer tout le monde et c'est un des rares sports qui peut se pratiquer en étant adapté ou même sans être adapté pour un public handicapé.
Oui, bien sûr. Alors ça me fait penser cette histoire-là, que en fait, tu parlais de Strasbourg dans les années 80, qui effectivement avait aussi quelques lycées, je crois, où il y avait, ou collèges, je ne sais plus, qui étaient échecs, jeux d'échecs études, et qui avaient effectivement là aussi des épreuves au baccalauréat qui comptaient, hein, d'ailleurs. Je crois que ça existait déjà, il me semble bien.
Oui, il y avait même, je crois, un cycle, ou en tout cas un cycle de cours en DEUG, l'université de Strasbourg, sur le jeu d'échecs. Donc il y avait aussi un prolongement vers le supérieur. Hein, Strasbourg a longtemps été très 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 en pointe sur le sujet. Je dirais que c'est moins le cas maintenant, n'en déplaise à certains, parce que aussi la perception du jeu d'échecs, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, la perception du jeu d'échecs à l'école a changé. La question actuellement étant qui se pose, c'est savoir si on fait du jeu d'échecs à l'école ou du jeu d'échecs pour l'école, et savoir ce que ça implique en termes de contenu aussi, c'est très très important, et c'est le débat actuel. Et donc c'est la pointe du débat, mais ça j'y reviendrai plus tard. Puisqu'on revient sur les événements, bien sûr, il y a un autre événement qui est un événement majeur, c'est en 2012 la signature de la circulaire d'application qui dit que le jeu d'échecs peut être pratiqué en classe. Alors la différence entre une convention et une circulaire d'application, elle ne saute pas forcément aux yeux des gens qui nous écoutent, mais c'est assez différent quand même. Une convention reconnaît une activité, une circulaire d'application dit qu'on peut le faire en classe sans problème et que personne ne peut s'y opposer dans la hiérarchie. Il n'y a pas d'inspecteur qui peut dire « non, vous ne pouvez pas, monsieur, faire cette activité en classe ». Donc c'est un texte beaucoup plus injonctif, ça ouvre carrément les portes à tous les enseignants qui le veulent d'utiliser les échecs en classe comme outil pédagogique pour justement améliorer les compétences des élèves. Mais alors attention, c'est là que c'est très important, il ne s'agit pas pour l'éducation nationale de dire vous pouvez jouer aux échecs en classe et blitzer comme des fous pendant au lieu d'apprendre à lire. Il ne s'agit pas du tout de ça, faut pas que ça soit mal compris. C'est une activité, bien sûr, en complément, et une activité qui permet de travailler des compétences. Autrement dit, qu'est-ce qui peut dans le jeu d'échecs rejoindre les compétences de l'éducation nationale. À quel moment je compte? À quel moment je réfléchis, je me concentre, ou j'ordonne une réflexion, ou je classe les pièces, etc., etc.
Ou je démontre.
Donc, c'est vraiment des activités échiquiennes, mais qui sont orientées autour des compétences scolaires. Il ne s'agit pas de jouer pour jouer, il s'agit de jouer pour apprendre.
Oui, où je démontre aussi comment je peux être attentif et ne pas me disperser pendant toutes les 3 minutes. Parce qu'évidemment, si je ne suis pas attentif et que je me disperse au jeu d'échecs, je vais perdre toutes mes parties. Donc on peut démontrer un élève comme ça qui, effectivement, il va se rendre compte qu'en fait, c'est bien un manque d'attention qui fait qu'il va rater ses cours, il va pas réussir à assimiler ce qu'on lui apprend ou ce qu'il essaie d'apprendre, en tout cas, parce que en fait c'est lui qui manque d'attention, et avec le jeu il peut voir ça, donc en prendre conscience, et c'est le premier pas pour, évidemment, prendre conscience du problème, c'est le premier pas pour aller vers sa résolution. Alors tu nous parlais de ça, je voulais ajouter quelque chose aussi, peut-être. Tu parlais tout à l'heure de Doug aussi, avec le jeu d'échecs et tout, mais je voulais dire quelque chose d'historique aussi, puisque moi-même j'y ai participé. C'est la dimension aussi informatique du jeu d'échecs, puisque c'est un jeu qui permet bien sûr de développer des programmes qui jouent aux échecs, hein, ça tout le monde le sait. Bon, c'est bien de les utiliser, ces programmes, mais il faut savoir que ça s'écrit, ces programmes, ça se programme, justement, ça se fait, et que c'est un excellent support quand on veut apprendre l'informatique, que d'essayer d'apprendre à un ordinateur à jouer aux échecs, de faire un programme d'échecs. Et beaucoup d'étudiants, depuis très longtemps, ont fait leur... Alors c'est plutôt après le bac qu'on fait ça, dans les écoles d'informatique, mais ont fait leurs armes en informatique, en programmant un jeu d'échecs, en programmant un programme qui savait jouer aux échecs. Alors soit soit le jeu d'échecs en complet, ce qui demande beaucoup de temps, soit une partie du jeu d'échecs, savoir résoudre un certain type de problème. Moi, je crois que j'avais programmé, moi, savoir jouer les finales de pions, ce qui n'est pas simple, d'ailleurs. Mais Botvinnik avait démarré ça dans les années 50, déjà. Il avait travaillé sur le premier programme informatique du monde qui savait jouer aux échecs. Bon, il ne jouait pas terrible, mais c'était le premier.
De façon inversement proportionnelle fort à leur taille. C'est-à-dire qu'ils faisaient à peu près un pan de mur, mais ils étaient incapables de gagner la moindre partie. Mais bon, ça s'est beaucoup amélioré.
Donc c'est
depuis, je doute pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui aient contribué à l'amélioration des monstres cybernétiques qu'on a aujourd'hui.
Voilà, et apprendre à programmer le jeu d'échecs, c'est faire un premier pas dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aussi. Mmh. C'est-à-dire des moteurs de recherche comme justement Google, des choses comme ça, eh bien, ça suppose de mettre en œuvre un certain nombre de techniques mathématiques et informatiques qui, au départ, ont été testées sur le jeu d'échecs. Donc, c'est un bon début, savoir programmer un jeu d'échecs pour commencer à comprendre comment on peut faire travailler un ordinateur pour trouver des solutions à des problèmes comme ça extrêmement complexes, faire une recherche dans beaucoup de données ou aller trouver la bonne position 10-15 coups à l'avance sur une partie d'échecs. Voilà, une dimension, je dirais, post-bac, là, pour le
coup. Oui, c'est sûr, mais ça commence, j'ai envie de dire, dès le plus jeune âge. Dès que tu abordes la notion de différents choix et de différentes variantes, tu es déjà dans une réflexion en termes d'arborescence.
Oui.
Que tu retrouveras, que tu développeras, bien sûr, par ailleurs, de façon beaucoup plus approfondie, mais ça, j'imagine que dans l'informatique, tu es obligé de travailler sur ces arborescences aussi. Je reviens quand même sur les événements, parce qu'il m'en revient. Alors, je suis en 2012 et il y a cette circulaire d'application qui est le texte actuel et qui est un texte très très important et qui, comme je l'ai dit, ouvre la porte au développement du jeu d'échecs à grande échelle. Un autre événement qui a suivi, auquel tu avais fait allusion, c'est la venue de Garry Kasparov en France à cette période-là. Il avait créé sa fondation Chess in Schools Europe, sa fondation pour le développement du jeu d'échecs à l'école en Europe. Et il est venu, visiter une école à Paris, l'école des Amandiers, je crois, et puis un collège à Rosny-sous-Bois pour voir deux activités échecs. Il était resté toute une matinée avec nous. Et c'est un souvenir assez extraordinaire parce que, comme tu le disais, c'est vrai que quelqu'un d'aussi médiatique et d'aussi reconnu, échiquiennement parlant, connu mondialement et qui se déplace et qui vient dans une école de l'Académie de Paris et dans un collège de l'Académie de Créteil, c'était une reconnaissance de notre travail, aussi bien la Fédération que moi en tant que chargé de mission pour l'Académie de Créteil et Gérard Weiss en tant que chargé de mission à l'Académie de Paris puisqu'il avait été nommé entre-temps sur un poste similaire au mien. Donc c'était vraiment, je dirais pas que c'était l'apogée, mais c'était en termes de communication à l'échelle mondiale, des choses dont on m'a reparlé. D'ailleurs, j'étais à Londres récemment, on a encore reparlé, parce que ça a fait le tour du monde. Hein. On m'a demandé ce qu'on avait de spécifique en France pour que Kasparov se déplace comme ça dans nos écoles et nos collèges. Donc, c'est quelque chose qui restera. Et puis, tu parlais de séminaire. En juin 2012, il y a eu un séminaire à l'École Normale Supérieure de Cachan, réunissant beaucoup d'acteurs de l'éducation nationale, dont Jean-Michel Blanquer, bien sûr, qui avait la présidence d'honneur de ce séminaire, et qui était un séminaire sur comment développer maintenant dans les académies, à l'échelle des académies, comment développer le jeu d'échecs à l'école. Donc il y avait beaucoup de représentants des différents recteurs de France qui étaient là, et qui ont assisté à des présentations très concrètes justement sur comment on fait pour développer le jeu d'échecs à l'école. Voilà, c'était les grands événements, et puis ensuite on avait des tas de projets, et comme tu le sais, il y a eu des élections fédérales, et j'étais engagé dans un camp qui a perdu, et de fait, je n'ai plus... J'ai moins de nouvelles et j'ai plus du tout la main sur cet aspect-là des choses.
Alors on va y revenir peut-être en deuxième partie, on reverra d'autres points. Bon, on va arrêter ici cette première partie et on va se... Et après on va reprendre juste après. Alors est-ce que tu sais comment sont les musiques sur Fréquence Diagonale, Jérôme ?
Pas encore, non.
Eh bien elles sont libres, hein, voilà, elles sont libres comme le podcast, elles sont sous licence libre, donc il existe aussi de la musique sous licence libre. Donc c'est très important de faire connaître le principe des licences libres, les programmes libres, il y a des jeux d'échecs, des programmes de jeux d'échecs sous licence libre sur internet, il y en a, on en parlera dans d'autres émissions bien sûr. Alors on se quitte et on se retrouve juste après cette première pause musicale. Thank you. Et nous voilà de retour sur Fréquence Diagonale, toujours avec Jérôme Moffra, qui est avec nous. On continue notre découverte du jeu d'échecs dans l'éducation. Alors, on avait à peu près vu l'historique jusqu'en 2012 du jeu d'échecs, de son parcours, comme reconnaissance aussi de support, d'outils éducation, de levier d'éducation pour travailler les capacités cognitives. Voilà. Alors, tu nous parlais tout à l'heure, je voulais faire un dernier point avant qu'on parle plus fédération, parce que tu as aussi été membre de la fédération, du côté plus fédéral. Il y a beaucoup de choses à dire sur les clubs, comment font les clubs, que font les joueurs d'échecs, comment ils s'organisent par rapport à cette thématique-là. Mais je voulais que tu reviennes sur ces... Tu m'as parlé d'une réunion à Turin qui avait eu lieu en Italie, internationale sur le jeu d'échecs. Tu m'as parlé aussi de colloques à Londres, ça c'est des dimensions internationales. Alors moi je voulais savoir qui organise ces colloques, parce que si c'est au niveau international, je suppose que c'est pas forcément le ministère français qui les met au point, surtout que tu m'as parlé de Turin et de Londres, tu vas peut-être m'en citer d'autres, je sais pas, mais alors qui organise ces colloques là, comment ça se fait, c'est quel genre de pays qui se réunissent pour parler de cette thématique du jeu d'échecs dans l'éducation?
Alors, pour ce qui concerne Turin, je crois que ça a été organisé par la région Piémont, je dirais la Ligue du Piémont, pour rapporter ça des réalités françaises, qui développe pas mal le jeu d'échecs à l'école, donc la région de Turin et de Milan. Et donc c'était organisé par des acteurs locaux, bien sûr, en liaison avec la FIDE à l'époque. Et ça avait réuni, j'allais dire, des intervenants de tous les pays. Ça allait de la Chine au Moyen-Orient, en passant bien sûr par l'Europe ou les États-Unis, donc c'était vraiment c'était très international. Et le thème général du colloque était les échecs, un jeu pour grandir. Voilà, c'était le titre italien, un jeu pour grandir. Le colloque de Londres a été organisé par Stéphane Leffler, un joueur autrichien mais qui vit en Allemagne et qui est aussi journaliste par ailleurs, et qui a organisé ce colloque en relation avec Malcolm Payne, qui s'occupe de la fameuse association Chess in Schools and Communities en Angleterre, qui est une association de développement du jeu d'échecs à l'école à l'échelle britannique, qui travaille hors fédération anglaise. Et voilà, ils ont organisé ce colloque en décembre dernier, qui était plus orienté sur les contenus, et qui invitait là aussi un panel international très très large, de l'Afrique du Sud à l'Arménie, en passant par la France, puisque j'ai eu le plaisir d'y être, en passant par les pays scandinaves qui sont très actifs sur le sujet. Mais ça permet de voir aussi que derrière la réalité, l'intitulé jeu d'échecs à l'école, il y a beaucoup de réalités très différentes. Tout le monde n'y entend pas la même chose. Voilà. Tu as différents cas, tu vas avoir l'Arménie qui a le jeu d'échecs qui est obligatoire à l'école depuis quelques années. Donc tous les petits Arméniens jouent aux échecs à l'école comme ils feraient des mathématiques. Donc ça c'est le cas que je qualifierais d'extrême, dans le sens où je vois peu de pays où ça pourrait se développer comme ça. Et puis il y a beaucoup de pays dans lesquels les échecs sont une activité périscolaire, dont il est toujours difficile de mesurer et la pertinence et la véritable diffusion. Et des pays qui se sont engagés dans une démarche qui est de développer le jeu d'échecs vraiment pour le bien-être de l'élève, pour développer ses capacités cognitives, quitte à adapter le jeu d'échecs d'ailleurs, et ça c'est un élément un petit peu nouveau qui est sorti du colloque de Londres, quitte à essayer de trouver des voies alternatives pour développer le jeu d'échecs et pas en rester à l'apprentissage des pièces, puis le tournoi, puis le vélo, puis la compétition, puis la compétition, puis la compétition. Parce qu'on finit souvent comme ça dans le jeu d'échecs, on passe beaucoup plus de temps à jouer qu'à apprendre, ce qui du point de vue pédagogique n'est pas forcément très convaincant, notamment pour les pays scandinaves qui rejettent quasiment la notion de compétition traditionnelle telle qu'on la connaît.
Oui, mais alors en plus, toi qui es prof d'histoire, il y a aussi dans le jeu d'échecs une dimension historique parallèle à l'histoire, je dirais classique, qui est quand même tout à fait intéressante. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi l'aspect informatique qui est intéressant. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'aspects autour du jeu qui n'est pas que, effectivement, la qualité de jouer. Et puis par ailleurs, bon, il y aura forcément, comme tu disais, il y a des cas extrêmes comme l'Arménie. Alors ceci, l'Arménie, on peut comprendre parce qu'ils ont eu quand même Petrosian, ils ont eu Kasparov qui était à moitié arménien. Bon, ils ont eu quand même des très grands champions. Donc ils se sont dit, on va essayer de continuer. Mais c'est des cas extrêmes, effectivement. Mais il faut aussi toujours, bien sûr, avoir l'esprit que, évidemment, une activité n'est pas forcément bonne pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle va être adaptée à certains élèves qu'elle sera adaptée à tous. C'est toujours le danger de vouloir toujours penser qu'une chose, si elle est bonne pour quelques-uns, elle est bonne pour tous. Donc il faut faire attention à ça aussi, parce qu'il y aura des réfractaires, comme il y a des réfractaires pour toute activité.
Faut pas espérer que le jeu d'échecs va résoudre tous les problèmes du monde. Hein. C'est,
bien sûr.
Il y a une frange d'élèves qui ne vont pas aimer, et c'est comme ça. Ça fait partie de dans toutes les activités. Il y a des élèves qui n'aiment pas l'activité. Bon, c'est en ça que aussi l'idée d'avoir un jeu d'échecs obligatoire à l'école, c'est pas nécessairement absolument souhaitable. Pourquoi l'Arménie le fait effectivement? Parce que le président arménien est un fervent joueur d'échecs. Les échecs sont vraiment en pignon sur rue en Arménie. Bon, c'est lié carrément à une démarche là qui est très élitiste, qui est de dire on va aller trouver les futurs champions, les futurs haragnons sont dans les écoles, il faut les former maintenant.
Ouais.
Enfin, c'est ça la logique. Ça peut pas être la logique du ministère de l'Éducation nationale en France, qui n'a que faire. Enfin, ils sont contents si on a des champions, mais c'est vraiment le cadet de leurs soucis. Le ministère de l'Éducation nationale en France, il est ni là pour trouver les nouveaux Zinedine Zidane, ni là pour trouver les nouveaux Maxime Vachier-Lagrave. Hein. Il est là pour utiliser un outil qui a l'air intéressant au plan cognitif pour en faire quelque chose pour les élèves, et si possible pour tous les élèves, ou en tout cas pour un maximum d'entre eux.
Bien sûr, tout à fait.
Donc la perspective est vraiment très 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 différente, et puisqu'on va parler de mon travail à la Fédération, je redévelopperai ce point, mais c'est vrai que c'est une ambiguïté de fond sur le développement du jeu d'échecs à l'école. Tous les acteurs du développement du jeu d'échecs à l'école n'y mettent pas le même contenu.
Exactement, c'est pour ça que j'ai voulu faire deux parties, pour voir effectivement le point de vue d'abord de l'éducation, qui effectivement n'est pas le point de vue du tout d'un joueur d'échecs, je dirais passionné au départ, et qui veut faire des compétitions, etc. Et effectivement, il y a dans le jeu d'échecs des dimensions autres en tant que support d'éducation qui sont éloignées de l'aspect purement compétitif. Donc alors, je crois qu'on a fait le tour. Hein, on pourrait y passer des heures, parce qu'on aurait pu parler aussi du parallélisme entre variantes aux échecs et multi-démonstrations en maths, hein, puisque on peut aussi démontrer de plein de façons différentes, comme il n'y a pas qu'une seule variante possible aux échecs, il y en a plusieurs, et parfois c'est difficile de savoir s'il y en a une qui est meilleure qu'une autre, il n'y en a pas d'ailleurs toujours, et des fois les variantes se valent, hein. Et c'est pareil, il y a des démonstrations en maths, plusieurs démonstrations en maths pour un même problème, qui se valent tout autant les unes que les autres. Alors, donc
La différence étant qu'au jeu d'échecs, tu peux avoir plusieurs solutions à des problèmes extrêmement simples. Et donc, même à des enfants de 6 ou 7 ans, je peux proposer des problèmes d'échecs très très simples, oui, avec des déplacements de roi, dans lesquels il y aura plusieurs bonnes solutions.
Oui.
Ce qui est rarement le cas dans des exercices très formels en mathématiques à cet âge-là,
oui,
où bah, tu vas faire 5 fois 3, bon, bah, il n'y a pas 50 solutions. Oui.
Hein. Mais c'est sûr, pas tout de suite. Mais plus tard.
Pas tout de suite, voilà. Le raisonnement, le fait d'avoir beaucoup de variantes intervient très très vite aux échecs, même dans des problèmes très très simples. Alors qu'en maths, ça arrive de façon beaucoup plus lointaine. Donc c'est aussi un des intérêts du jeu d'échecs dès le plus jeune âge.
Oui, tout à fait, exactement. Alors maintenant, l'aspect fédéral. Alors tu as été effectivement, comme tu l'as rappelé, membre de l'équipe de Jean-Claude Moins, élu en 2005. Les dernières élections, c'était en 2013. Cette équipe n'a pas été renouvelée, hein, par l'élection. Hein. C'est une nouvelle équipe qui est maintenant présidée par Diego Salazar. Mais toi, tu es resté, bien sûr, acteur du jeu d'échecs au niveau de l'Académie de Créteil. Et alors, par contre, tu me disais, là, tu n'as plus de contact avec la fédération, mais tu vas nous expliquer, on va revenir sur ce point peut-être après, mais tu vas nous expliquer maintenant, du point de vue fédéral, là, c'est l'autre point de vue, c'est de dire, nous, on veut développer le jeu d'échecs parce que c'est bien d'avoir plus de joueurs, c'est bien d'avoir des tournois où il y a plus de monde qui vient, d'avoir plus d'événements, parce que nous, on aime le jeu d'échecs, et bien sûr, le fait que ce soit enseigné en termes éducatifs est un atout, tout comme bien sûr les clubs de foot ne peuvent être que ravis qu'il y ait du foot à l'école aussi. C'est bien sûr tous ces sports ont des qualités. Et donc voilà, donc là c'est l'aspect fédéral plus, et il y a un aspect bien sûr aussi investissement des clubs, on n'en a pas parlé, parce que là tu parles dans l'éducation, c'est évidemment les professeurs qui, joueurs d'échecs ou pas, décident de se mettre à enseigner le jeu d'échecs à leurs enfants pour les aspects éducation, mais il y a aussi dans les activités, je crois que ça s'appelle périscolaire, les clubs d'échecs et les joueurs d'échecs qui vont avoir des actions soutenues par la fédération, des actions bien sûr dans un cadre éducatif aussi, mais des actions d'entraînement, de découverte du jeu d'échecs dans les écoles.
Bien sûr, oui. Enfin, le rôle des clubs est très important, puis surtout il est historique. Hein. Dans mon historique, on va dire que je suis passé par-dessus les clubs, mais la plupart des grands clubs ont été très actifs. J'ai parlé de Strasbourg, j'aurais pu te parler de Cannes, où tu as eu des milliers de joueurs pendant des années. J'aurais pu parler de Clichy, du développement en Guyane à la fin des années 90. Bien sûr, de la Corse. Hein, je ne peux pas oublier que c'est la première activité sportive chez les jeunes, le jeu d'échecs en Corse, par le développement qui a été fait par Léo Battesti du jeu d'échecs à l'école. On peut pas non plus oublier la Réunion qui s'est développée très fortement ces dernières années, ou la Franche-Comté, qui est une nouvelle paire d'échecs aussi. Tu as beaucoup de clubs qui se sont énormément investis dans le développement du jeu d'échecs à l'école, notamment dans ses activités périscolaires, quelquefois et plus rarement sur le temps scolaire, mais souvent dans les activités périscolaires. Et donc ce sont des acteurs de la promotion du jeu. Il est certain que la fédération, elle, a un point de vue qui est différent de l'éducation nationale. Le but d'une fédération, c'est à minima de se maintenir en termes de licenciés et, si possible, de se développer et de devenir de plus en plus populaire auprès du grand public. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'entends la mission d'une fédération sportive. On aime notre sport, on a envie de le faire connaître. Et on a envie que de plus en plus de gens l'aiment.
Oui.
Donc, il est logique pour une fédération de s'adresser aux plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun a priori sur le jeu, ni positif ni négatif, qui sont encore, qui sont à un âge où on apprend très vite, qui aiment jouer, et le jeu, comme l'a dit un pédagogue, c'est le travail de l'enfant, donc on leur propose une nouvelle façon de s'amuser, une façon de s'amuser en plus qui est plutôt porteuse de valeurs positives, comme la concentration, l'aspect de l'adversaire et autres. Donc la fédération, elle a tout intérêt à aller vers ce très très large public, qui peut lui assurer déjà à court terme des licenciés, puisque il y a une licence qui est une licence plus ou moins, je ne vais pas relancer le débat sur les licences B, mais la plupart des scolaires ont une licence B pour faire des tournois, donc c'est une bonne chose pour montrer que cette réalité elle existe, parce que encore une fois, si tu fais une activité formidable mais qu'elle se déroule dans un placard, personne ne le saura jamais. Il y a aussi une dimension communication. Une fédération, elle est aussi là pour communiquer auprès d'institutions. Ça fait partie de son lobbying. Si tu te présentes au ministère de l'Éducation nationale en disant on est formidable mais on a zéro licencié, on n'est pas sérieux. Hein. C'est,
oui,
la force, elle est aussi rapport au nombre. Si tu arrives dans un ministère et que tu dis on est 60 000 ou 100 000 ou 200 000, forcément, c'est pas pareil. On n'a pas le même poids. On peut le regretter, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la fédération, elle a besoin de montrer une puissance en termes de licenciés, mais elle ne pense pas que sur ce court terme, elle pense aussi à moyen terme que les élèves qui ont appris vont continuer à suivre le jeu d'échecs, licenciés ou pas. Et puis à long terme, on peut espérer que dans 10, 15, 20 ans, puisqu'il faut penser à long terme aussi quand on est une fédération, les enfants qui ont été initiés au jeu d'échecs ont aimé. Ils n'ont pas poursuivi, mais ils ont aimé. Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, ils vont revenir au jeu d'échecs. Ils auront aussi à leur tour des enfants et auront un a priori positif sur le jeu d'échecs. Ils se diront, pourquoi je sais bien, je vais mettre mon enfant aux échecs, etc., etc. Ou alors eux-mêmes vont être en position, dans des positions de décision. Ils seront devenus entre-temps chefs d'entreprise, journalistes, enseignants. Et ils vont avoir un rôle, un impact dans la société. Qui pour financer, qui pour faire des articles positifs sur le jeu d'échecs, qui pour enseigner le jeu d'échecs. On a le cas de beaucoup de joueurs d'échecs qui sont ensuite devenus des enseignants et qui ont développé le jeu d'échecs à l'école tout naturellement. Donc ça, c'est un travail de long terme. C'était d'ailleurs un des préceptes de Jean-Claude Loupatière qui disait, si on apprend les échecs à un enfant, peut-être que dans 20 ou 30 ans, c'est lui qui va financer la Fédération Française des Échecs, ou on va peut-être former le futur président de la Fédération Française des Échecs. Donc c'est aussi mission de popularisation qu'a la Fédération Française. Elle essaye de toucher un maximum d'enfants pour justement travailler sur le long terme aussi.
Voilà, tout à fait, mais sans les forcer, bien entendu. Alors, ces actions que font les clubs, comment ça se passe? Comment un club peut arriver à... Parce qu'on ne rentre pas dans une école de la République comme ça, je veux dire, c'est...
Ah non, on n'entre pas dans une école publique comme ça, c'est le côté un petit peu strict de l'école, mais il faut le comprendre aussi, les écoles, les collèges, les lycées sont sollicités par des tas de personnes plus ou moins bien intentionnées toute la journée.
Oui, bien sûr.
Aussi bien des gens qui ont quelque chose à vendre que des gens qui ont une éventuellement des sectes qui veulent faire du prosélytisme. Il y a des tas d'organisations, d'associations qui viennent taper aux portes des écoles, des collèges et des lycées, et la situation serait ingérable si le cadre n'était pas strict. Donc le cadre est assez strict et il dépend un petit peu du niveau primaire secondaire. Pour ce qui est du cas le plus simple, secondaire, c'est-à-dire collège et lycée, si un club a un formateur de la Fédération Française des Échecs qui a son diplôme, le DAF, DAF 1 par exemple, ou même le DIF, le diplôme d'initiateur, bon, il peut venir taper à la porte du collège, demander à rencontrer le principal du collège ou le proviseur du lycée, pour lui proposer, l'année suivante, de mettre en place une activité jeu d'échecs, voilà, dans le cadre, par exemple, de l'accompagnement éducatif, qui est un dispositif qui est financé par l'État, et auquel ont droit tous les collèges de France.
Donc ça, ça veut dire que un responsable de club qui a ce fameux diplôme fédéral maintenant, qui, bon, forcément, du coup, par ricochet, est maintenant reconnu par le ministère, puisqu'il y a cette convention, etc., il tape à la porte d'un collège qui est intéressé par une activité échec, qui là se trouve avec quelqu'un qui est compétent, bien sûr, dans le sujet. Ils vont pouvoir demander, c'est le collège qui va pouvoir demander un financement, en fait.
Oui, voilà. Ils vont remplir un dossier d'accompagnement éducatif. Après, en général, c'est plutôt le club qui le fait, mais ça se fait en lien, bien sûr, avec le collège. Et puis l'activité peut se mettre en place. Donc, par exemple, voilà, en septembre, on décide qu'il va y avoir 2 heures tous les jeudis soirs, de 16h à 18h, après la classe, pour une activité jeu d'échecs qui sera ouverte à tous les collégiens.
D'accord, donc c'est comme ça que ça se fait, c'est assez simple finalement, et c'est cadré à la fois du côté fédéral et du côté éducation, puisqu'effectivement, il y a cette notion de, comme tu viens de le dire, là, de diplôme officiel de la fédération en tant que...
Voilà.
Enseignant validé, tamponné.
Voilà, c'est ça. Mais le club fait cette démarche. Ensuite, il y a aussi un rôle important de l'animateur, c'est que l'animateur doit aussi penser à la fédération et doit aussi doit essayer d'inciter ou en tout cas de faire un travail d'information auprès des jeunes en leur disant que oui, ils pourraient faire des tournois, oui, ils peuvent se licencier à la Fédération Française des Échecs. Il doit y avoir quand même une volonté affichée à un moment que les élèves prennent une licence. C'est un aspect important pour la fédération et pour les clubs.
Alors là, oui, mais là, alors il y a un autre levier dont il faut parler. Là, il y a un aspect très important. Alors pour ceux qui nous écoutent, hein, qu'ils soient professeurs ou qu'ils soient donc membres de clubs d'échecs ou bien sûr étudiants, élèves dans une école primaire ou dans un collège, hein, les deux maintenant, hein, peuvent accueillir des activités. Mais il y a un levier pour ce que tu dis là, c'est-à-dire ce tremplin qui est dire bon, ben, j'étudie le jeu d'échecs à l'école pour m'aider dans mes études. Bon, c'est l'aspect purement éducatif. Après, ça m'intéresse plus, je veux en faire plus. C'est vrai dans les autres sports aussi, etc. C'est tout ce qui est championnat des collèges, justement, championnat des écoles et des collèges qui maintenant est assez bien structuré au niveau fédéral. Il y a maintenant des championnats spécifique au collège, par école, alors par équipe, c'est des équipes de 8 ou de 8 ou de 9, je sais plus, mais c'est des équipes donc qui se composent au sein du collège, et ces enfants, on peut même créer plusieurs équipes par établissement, et on va pouvoir participer au championnat officiel de la Fédération Française d'Échecs, mais des scolaires, donc c'est pas le championnat de France, hein, qui est encore autre chose, là c'est le championnat des scolaires, et faire gagner son établissement, ou au moins participer, pourquoi pas y viser un podium, ce qui est déjà très bien aussi, et donc là forcément, bon, ben, on va prendre une licence B, comme tu disais, qui est d'ailleurs assez modique, hein, aujourd'hui, comme tarif, c'est de l'ordre de quelques euros, hein, c'est pas...
Voilà. Oui, oui.
Mais on va pouvoir comme ça découvrir un peu ce que c'est aussi que de s'affronter avec des joueurs qu'on ne connaît pas. Parce que, bon, jouer avec, bien sûr, des copains ou des copines de sa classe, c'est déjà bien. Des autres classes, c'est encore mieux. Puis alors, rencontrer des joueurs qu'on ne connaît pas du tout, d'autres collèges, d'autres établissements, c'est encore une autre dimension. On rentre un peu dans le grand bain, quoi.
Oui, c'est souvent le premier tournoi, d'ailleurs, pour les jeunes joueurs. Et c'est en ça que tous ces tournois ont un grand intérêt. Alors, je signale quand même qu'ils ont été extrêmement bien structurés par Christian Bleuzen de la Ligue de Bretagne à l'époque, hein, qui a vraiment œuvré de main de maître sur ce sujet. Donc on a des championnats scolaires, un championnat de collège aussi par équipe, comme tu l'as dit. Championnats qui sont très bien organisés, qui sont très intéressants pour les enfants parce qu'ils peuvent se confronter, pour les adolescents aussi. C'est des tournois quelquefois qui manquent un petit peu de visibilité malgré tout, parce que malheureusement, quand tu fais une finale nationale, bah souvent elle se déroule très loin du lieu du collège, et il y a peu d'informations, le collège n'est pas forcément au courant, ou même la municipalité n'est pas toujours au courant. Ça, c'est un aspect à travailler. Le manque de visibilité de ces compétitions les rend finalement je dirais, il y a assez peu d'impact local pour les échecs à l'école, malheureusement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir en ligne des maires de ville qui m'appellent pour me dire, mais j'ai appris que mon équipe était en finale de collège, est-ce que c'est vrai? Donc voilà, après c'est aussi un travail de communication que le club doit faire auprès de ses institutions, hein, auprès de ses collectivités locales. Mais voilà, c'est un petit biais. On avait pensé à la fédération organisée en parallèle ou à la place, mais plutôt en parallèle de ces championnats, inciter les régions à organiser des grands rassemblements régionaux ou locaux qui soient beaucoup plus visibles. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, ça a l'air un peu obsessionnel chez moi, mais les collectivités locales, même les entreprises, ne réagissent qu'à une chose, c'est au nombre, le nombre. Combien vous êtes? C'est toujours la question. Si on est 30 à être les meilleurs de France, c'est bien. Mais si on est 3000 dans une salle ou 1000 dans une salle, et que voilà, forcément, le maire de la ville, il voit derrière 1000 enfants, il voit 2000 électeurs. C'est naturel et c'est comme ça.
Oui.
C'est comme ça.
Oui, bien sûr. Ouais,
alors que lui, qui ait 4 enfants, qu'il soit champion, il est content parce que c'est bien pour la ville aussi. Ouais. Mais c'est pas exactement la même perspective.
Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, sur cet aspect-là, bon, il faut quand même pas non plus omettre le fait que participer à ces championnats, c'est une belle aventure aussi pour les jeunes.
Bien sûr, c'est une très belle aventure. Et c'est pour ça qu'il faut les maintenir et qu'on les a toujours maintenus, en dépit du fait qu'ils coûtent plus d'argent qu'ils n'en rapportent à la fédération. Mais, si tu veux, ils ont aussi un aspect quasiment patrimonial. Tout le monde a fait tous les gens qui sont des passionnés d'échecs, ou quasiment tout le monde a fait un tournoi scolaire ou a représenté son école. Donc il y a un côté aussi affectif qu'on est obligé de perpétuer en tant que fédération. Une fédération, c'est pas que du chiffre, c'est quand même et avant tout de l'humain, et c'est l'envie de partager. Donc là, il y a vraiment un partage entre les ados qui quelquefois vont faire plusieurs centaines de kilomètres. Pour certains, des scolaires, c'est la première fois qu'ils partent de chez leurs parents pour aller faire une compétition d'échecs. C'est un souvenir marquant, c'est certain.
Ah oui, c'est un souvenir marquant. Alors on ne peut pas ne pas citer le cas quand même exceptionnel, je crois qu'il faut le citer. C'est celui de Patrick Loubatière, hein, le fils de Jean-Claude, l'ancien président, donc qui était président de 89 à 2004. Et Patrick, il n'est pas devenu un acteur de la Fédération française d'échecs, mais il est professeur, je crois, de français au lycée de Montpellier. Alors moi je le connais parce qu'on a été dans le même lycée. C'était un pur hasard. Je sais pas ce qu'il faisait là d'ailleurs, parce que son père était plutôt du côté de Latte, à côté de Montpellier. Il était à Lunel, et moi aussi j'étais à Lunel, et on s'est connus à cette époque-là. Et c'est un garçon charmant, toujours souriant, Patrick, extrêmement de bonne humeur en permanence. Et alors, donc, il est professeur de français, et il a entraîné, alors c'est un lycée lui, hein, et il a été multiple, il a gagné plusieurs fois le championnat de France des lycées, quoi. C'est tout.
Il y a un palmarès, ils sont obligés de construire tous les ans un nouveau présentoir, une nouvelle vitrine pour toutes les coupes qu'ils remportent.
Oui, c'est hallucinant.
c'est des acteurs comme lui sont indispensables. Après, la fédération, elle peut avoir toutes les actions de communication qu'elle veut. Si sur le terrain, c'est pas relayé par des gens exceptionnels comme ça, c'est sûr que on perd de l'impact. Hein. Encore une fois, tu as beaucoup, je dis sans arrière-pensée, mais il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais ta convention, ta circulaire, elle sert à rien. » Ben, elle sert à rien parce que tu n'as rien fait. Si Patrick Loubatière, lui, il a fait, il a même fait avant les conventions, et je pense que son action, elle est très renforcée par toutes les actions de communication qu'on a faites. Et quand les acteurs locaux font, il se passe quelque chose. Mais là, c'est pas le chargé, la personne en charge de ça, la fédération, qui peut faire à la place des gens sur place.
Bien sûr, alors il faut comprendre avec cette histoire-là, ce que tu veux dire là, effectivement, c'est que le travail qui a consisté à faire reconnaître le jeu d'échecs par ce partenariat et cette convention maintenant au niveau de l'éducation, permet...
Voilà.
À celui qui veut mettre en place le chèque de le faire. Donc, mais en fait, il reste à lui quand même de le faire. La convention n'est que le cadre qui permet de le faire. C'est-à-dire, sans ça, on ne pouvait pas. C'était extrêmement difficile. Alors que maintenant, c'est permis, puisque reconnu, etc. Mais il faut faire des démarches.
On a ouvert la porte. Maintenant, si personne la pousse, bah forcément, ça marche moins bien.
Voilà.
Mais il y a plein de gens qui la poussent. Il y en a de plus en plus. Donc, moi, je suis très, très optimiste sur le sujet. Après.
Alors on ne peut pas ne pas citer aussi, tu dois connaître ça Jérôme, il faut en parler, c'est encore peut-être peu connu, mais quoique non, là je crois que la fédération en a parlé plusieurs fois, et il y a aussi sur internet une poussée éducative tu as parlé, je crois que c'est le responsable de Bretagne justement qui a fait ça, tu rappelleras son nom, mais ça s'appelle MatPat, je crois
oui,
MatPat
alors,
qui est un...
Le...
Voilà.
c'est pas lui qui l'a fait directement, mais il est un petit peu impliqué dans le sens où c'est le CRDP de Rennes qui a accueilli ce serveur qui s'appelle MatPat et développé par deux ingénieurs parisiens.
Le CRDP, tu peux rappeler ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors MatPat, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est une plateforme de jeu d'échecs dédiée aux scolaires, en fait. Donc les écoles peuvent s'y inscrire, les collèges peuvent s'y inscrire pour une somme vraiment modique, parce que c'est de l'ordre de 25 à 30 euros pour l'année pour tout le collège, quelque chose comme ça. Pas pour un élève, hein, pour tout le collège, et tu peux jouer en ligne et faire des tournois en ligne. Alors, l'Académie de Créteil organise son propre tournoi MatPat, on travaille beaucoup avec eux, et c'est une plateforme donc de classique, si ce n'est qu'elle est consacrée et réservée aux scolaires, donc tu ne peux rencontrer que des
voilà,
des
c'est, donc c'est verrouillé, non mais c'est important, c'est aussi sécurisé, c'est parce que
c'est très sécurisé évidemment, parce que c'est sur un serveur éducation nationale, c'est même tellement sécurisé que quelquefois on a du mal à organiser des matchs à cause des pare-feux, des proxys, des machins que je comprends pas, mais c'est très sécurisé et c'est dédié à éducation nationale, donc il n'y a pas de mauvaise rencontre possible.
Donc on peut faire des rencontres interscolaires entre, par exemple, une école de... Je crois que c'est plutôt pour les écoles d'ailleurs, mais
oui,
entre une école de Brest et puis une école de Toulon. Voilà,
c'est... Absolument, oui, il suffit de se mettre d'accord sur l'heure et se connecter en même temps et c'est parti.
Ça c'est génial.
Donc il y a des grandes perspectives là de ce côté-là, mais il faut... Encore une fois, moi je le regrette, on n'a peut-être pas assez soutenu MatPat à l'époque où j'étais à la fédération. Là, il aurait peut-être fallu soutenir en termes de budget, mais comme tu le sais, le budget d'une fédération n'est pas extensible. C'était l'objet d'arbitrage et de discussions souvent passionnées.
Oh ben, on aura des acteurs de la fédération sur Fréquence Diagonale, bien sûr, et on abordera ces points-là. Alors, un dernier point, tu me disais CRDP, c'est quoi là, exactement le CRDP ?
Excuse-moi, le Centre Régional de Documentation Pédagogique. C'est en fait, alors il y a un CNDP à Poitiers, qui est le Centre National de Documentation Pédagogique, qui est l'éditeur de l'Éducation Nationale, donc qui édite tous les livres, tous les manuels de l'Éducation Nationale, et qui produit beaucoup de documents, y compris de DVD, des vidéos, etc., etc., site internet. Et chaque région, en fait, a son CRDP, un Centre Régional de Documentation Pédagogique.
D'accord. Et là, on parlait du CRDP de
Rennes.
De Rennes, hein, de voilà, Bretagne. C'est ça. C'est bien quelque chose de breton. Et tu rappelles-moi là, le nom de cette personne donc, qui était un acteur
Alors, le président de la Ligue de Bretagne et qui organisait les compétitions scolaires, c'est Christian Bleuzen.
Ouais, d'accord. Très bien. Donc, bon, c'est bien de le citer aussi.
Oui, parce que c'est un bénévole pur et dur qui a vraiment énormément travaillé pour organiser les compétitions scolaires sur son temps libre. C'est
alors,
vraiment
pour...
Ouais. Quelqu'un qui a beaucoup fait pour les échecs scolaires.
Alors pour finir Jérôme, on va rappeler comme tu es aussi un joueur d'échecs, tu as des classements Elo, hein ?
Ah oui.
Alors tu
de le maintenir, d'entretenir, mais ouais. Je joue peu.
Alors t'as un classement lent, de partie lente à 2000 et quelques, c'est ça ?
Ah, un petit peu en dessous de 2000 maintenant, oui.
D'accord, et un classement, tu joues aussi aux échecs rapides et au blitz ?
Au blitz, oui. Alors j'ai dû baisser, mais j'étais au-delà de 2100, entre 2100 et 2200.
D'accord. Voilà,
ça varie suivant l'état de forme et puis mes possibilités de m'entraîner, parce que tu sais, je suis dans les échecs, mais je suis aussi beaucoup maintenant dans l'édition. Déjà dans l'édition de livres d'échecs, puisque tu sais que j'ai fait pas mal de livres, y compris des livres scolaires,
oui.
D'échecs, et puis d'autres livres, puisque mon actualité me pousse aussi à t'en parler. J'ai pas mal de livres qui sortent chaque année, donc je ne suis pas que dans les échecs, et je crois que c'est intéressant de sortir des échecs de temps en temps pour y revenir avec encore plus de plaisir.
Oui, parce que tu es aussi auteur de pièces de théâtre, hein. Voilà, on le dit pour ceux qui savent, qui voudraient avoir un auteur de théâtre, on en a un aussi ici.
Voilà.
Donc, bon, écoute, merci beaucoup, Jérôme, d'avoir passé du temps avec nous sur cette première émission. C'était la première, hein, de Fréquence Diagonale. On va se retrouver régulièrement. Alors, c'est un podcast, il est sous licence libre, vous pouvez donc le partager facilement, tout est indiqué sur le site pour le faire. Merci Jérôme, on te souhaite une bonne continuation, et puis et probablement une autre fois tu reviendras sur le podcast pour nous donner des nouvelles.
Mais j'aurai sûrement bientôt beaucoup de choses à vous dire sur les scolaires. Sûrement, il y a beaucoup de projets en cours, donc je garde un peu de suspense, mais on aura l'occasion d'en reparler.
D'accord, super. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce podcast Fréquence Diagonale sous licence libre. Et on se quitte avec notre générique fétiche, Broken Embraces. Voilà, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.